France Inter.
Club.
Bonsoir et go et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Marion Guilbeault.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Bienvenue dans Côté Club pour une heure de musique avec le meilleur de la scène française et plus ses affinités. Chaque soir, c'est votre rendez-vous live au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Ce soir, deux invités, Allo Maude et Bernary. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Allo Maude qui revient avec un deuxième album, Celebrate, en anglais, en français. L'autrice, compositrice, interprète plébiscitée par les Chemical Brothers. Quand même, chante sur le dernier titre « Entends-tu ma voix ?». Pas d'inquiétude, on l'entendra la preuve en live avec deux titres ce soir. À ses côtés, Bernary avec son EP « Les Odyssées », quatre titres enregistrés avec les Feux Chatterton, un EP attendu depuis plus de 6 ans. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Réponse dans quelques instants. Pour vous Marion ?
Je vais profiter de la présence stimulante, excitante, sexy de nos deux invités pour ouvrir quelques dossiers SM, SM comme scène musicale bien sûr. Grand déballage vers 22h30.
Et grosse déception par rapport à ce titre. Voilà, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre avec le meilleur, Laurent Barden, Jeanne Adède, Tigre d'eau douce. Meilleur, c'est le titre sur France Inter.
Je... Du vent.
Le meilleur, c'est lui, Laurent Barden, qui sera l'invité de Côté Club en mai prochain avec son nouvel album. Allo Maud et Bernard Ri sont les invités Côté Club ce soir. Eux aussi, ce sont les meilleurs. Tout le monde est les meilleurs, c'est un peu l'école des fans ici. Deuxième album pour Allo Maud, nouvelle EP pour Bernard Ri. Je ne sais pas si vous vous connaissiez avant d'entrer dans le studio tous les deux.
Non, on ne se connaissait pas, mais je crois qu'on a des amis en commun.
C'est très possible. Mais apparemment, on s'est croisés dans un petit bar dans le 11e,
exact,
qui s'appelle le Motel.
Ouais, qui est un repère de musiciens.
Où j'ai travaillé les premières années à Paris comme barman. Voilà.
Et quels seraient ses amis communs alors ?
Christophe, peut-être.
Mon Dieu.
En tout cas, vous avez en commun Christophe. Ouais.
Ah, je ne savais pas.
J'ai passé une nuit chez Christophe, oui, effectivement.
Ah ouais.
Tout le monde a des anecdotes incroyables.
Ouais, tout le monde s'est fait inviter une fois chez lui.
Vous avez bouffé des pizzas comme tout le monde ?
J'attendais dans un bar à Montparnasse le signal. Finalement, j'ai reçu le texto et vers 1h du matin.
Monte !
Bah oui, viens. Et puis, je suis arrivé là. C'était incroyable, en fait. On a réparé des trucs. C'est trop sympa. Il était trop gentil, vraiment.
Et vous avez été parolière sur les vestiges
du chaos.
Du chaos,
tout à
ouais.
fait.
Donc vous aussi, rationnement de pizza au dernier étage ?
Alors non, on n'a pas mangé de pizza, on a un peu travaillé chez lui, on a mangé ensemble, mais à l'extérieur, pas chez lui, et pas des pizzas. De l'artichaut, il adorait les artichauts aussi.
Que d'anecdotes. Vous avez autre chose aussi en commun, un anniversaire pour vous deux, 2014, c'était votre premier album pour vous, Bernard Ri.
Oui.
Premier album en 2014, même année pour le projet de création Allo Maud, j'ai vérifié, 2014 aussi.
J'ai peut-être dit une date de façon un peu...
Elle m'arrange, cette date.
Mais ça, c'est très bien, on dit ça.
Voilà, ouais. 10 ans, ouais. Un anniversaire. Mais plus encore, 6 ans entre vos dernières productions respectives, ouais, et ce qui vous amène aujourd'hui. C'est vraiment fou, ça s'appelle faire de la programmation. 6 ans, c'est quand même beaucoup dans le paysage musical actuel, où on sort des singles en veux-tu en voilà, des EP, de quoi occuper le terrain. Ça ne vous a pas inquiété de prendre 6 ans entre le nouvel album pour vous, Allo Maud, et un nouvel EP pour vous, Bernard Ri ?
Mais en fait, moi, j'ai fait vraiment mes deux premiers albums très, très rapidement.
En effet, 2014-2016, paf.
Ouais, exact. Mais c'est sorti en 2 années de différence. Mais en fait, je l'ai fait en 1 an, même pas. C'était fait, c'était enregistré. Puis après, on me reprochait de sortir trop rapidement dans le cycle des sorties d'albums. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre mon temps. Et puis, finalement, il y a eu un EP aussi en France en 2018. Donc, ça, voilà. Donc, j'ai mis un peu plus de temps là. Mais après, oui, il y a eu le Covid. Il y a eu un peu de voyage. J'ai déménagé. Je suis arrivé ici en France. Je suis ici depuis 5 ans maintenant. Donc, ouais, y a tous ces trucs-là qui ont fait que...
Mais c'est pas si simple, hein. Je lisais dans un entretien, ça a été un processus extrêmement complexe émotionnellement, même que j'ai souvent pensé que je n'allais plus jamais revenir.
C'est vrai, c'est vrai. Et je suis encore surpris d'être ici avec vous en train de parler de ma musique. Ça me touche beaucoup. Je suis très émotionnel par rapport à ça. J'ai beaucoup pensé arrêter à des moments. Ça a été très... Ben, le Covid en soi a remis beaucoup de gens en question sur plusieurs choses.
Mais vous auriez fait quoi alors ?
Ben, c'est ça la question, et c'est pour ça que je suis ici en ce moment.
Bon, vous me rassurez, okay. Vous n'aviez pas de plan B. Voilà.
Non, pas du tout, c'est ça le problème en fait. Non, ma passion c'est la musique, donc je suis encore là.
Et pour vous, ça vous a inquiété, 6 ans entre le dernier album et celui-ci, Allo Maud ?
Pas du tout, non, j'ai pas vu le temps passer, je dirais. Non, ça, je ne me pose pas la question, à vrai dire.
Ben, il faut dire que pour vous aussi, beaucoup de choses sont passées entre-temps, puisqu'on vous a entendu notamment chez eux. Chez eux, c'est qui ? Quand je dis chez eux, c'est les...
Les Chemical Brothers.
Et voilà. Quand même pas mal. Deux titres, vous avez sur leur dernier album de 2023.
Comment ça s'est fait, cette rencontre ? Comment vous êtes retrouvés sur cet album ?
Eh bien, je pense que ça s'est fait parce que c'est des curieux, des passionnés de musique. Et je pense qu'ils diguent beaucoup et qu'ils ont écouté mon disque, le premier, qui est sorti en 2018, Je suis une île, et que ça leur a plu. Et voilà comment ça s'est fait. Du coup, j'ai été contactée.
Votre label anglais Evenly n'y est pour rien ?
Alors, je pense qu'ils diguent, entre autres, beaucoup le catalogue Evenly, effectivement.
Je vous ai demandé à chacun et à chacune votre titre déclencheur. Le premier.
Podcast.
Maud, qu'est-ce qu'on écoute ?
On écoute Dirouf.
Qu'est-ce que ça a déclenché chez vous ?
Ça a déclenché beaucoup de choses. Ça a déclenché. Alors, j'ai un tout petit peu triché parce que ce morceau date de 2020, si je ne m'abuse. Alors que, voilà, j'avais déjà fait plein de choses avant, évidemment. Et eux aussi, surtout. Mais ça a déclenché. Je veux dire, ils sont complètement fous dans leur liberté artistique. Ils ont une façon de... Je les ai découverts sur scène, en fait, Dirouf, au Brésil. J'ai jamais vu des musiciens jouer autant ensemble. Ils sont liés vraiment par quelque chose de complètement magique, magnétique. Et j'étais complètement en transe, et c'est le cas à chaque fois que je les vois en concert. Voilà, pour moi, c'est un peu ce que je recherche en musique, la liberté, la transe, tout ça.
Ben on écoutera tout à l'heure, et manifestement, vous avez trouvé votre voix. Deuxième titre déclencheur, bien sûr, il est pour Bernary.
L'île, c'est comme Chartres. C'est haut et propre. Avec des nefs. Avec des arcs, des corridors et des falaises. En février, la neige est rose. Comme chair de femme.
Une figure emblématique de la chanson québécoise, Félix Leclerc, pour vous, Bernary.
Ouais, c'est un grand. C'est quelqu'un qui m'a accompagné dans mes débuts en tant que personne qui a décidé d'écrire des chansons. Ça fait d'aussi longtemps que je me souvienne que j'ai écouté Félix Leclerc. Et sur mon EP, j'ai décidé de l'honorer, de faire un petit hommage à l'une de ses chansons, qui est celle-ci. Et
la chanson s'appelle Les Palmiers Bleus.
Les Palmiers Bleus, ouais.
Sur votre album.
Voilà.
En fait, référence dans cette chanson-là.
Ouais, ouais. Voilà, qui dit les fruits sont mûrs dans les vergers de mon pays. Si t'as compris, c'est un grand chant indépendantiste. Et puis, j'ai commencé cette chanson en disant, bon, les fruits ont pourri, et maintenant, où est-ce qu'on va finalement? Puis c'est ça, c'est un peu l'idée de la chanson.
Bernary, je vous propose de quitter le Québec pour partir tout de suite en live avec Allo Maud. Elle est déjà en place derrière moi au micro du studio 621. Premier titre, My Desire is Pure, sur France Inter.
Cherche encore. We'll be right back.
Alomo dans live avec même des accents à la Björk au détour de ce titre au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques avec à la basse Quentin Rocha, Simon Lacouture à la batterie, prise de son ce soir, Laurent Baudouin et Raphaël Rousseau. Un mot sur la guitare Alomo dont vous jouez. Est-ce que c'est la Silverstone des années 60? Est-ce que c'est la fameuse Silverstone dont vous parlez dans les entretiens?
Silverstone, ouais, tout à fait. La seule et l'unique. Ma seule et unique guitare.
Instrument fétiche, fidèle. Je lisais, vous l'avez trouvé où et quand?
Je l'ai trouvé, alors je l'ai entendu d'abord jouer par un musicien américain qui s'appelle Daniel Rawson, qui fait partie de Grizzly Bear. Et ensuite, c'est un ami qui m'a fait jouer sur la sienne et j'ai été subjuguée et je suis allée en acheter une. Illico.
Alomo, deuxième album, Celebrate. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce titre qui pourrait avoir des connotations religieuses?
Alors, c'est marrant parce que vraiment, ça me poursuit alors que...
Il faut dire qu'un des premiers titres, c'était baptisme, que vous avez eu quand même une enfance religieuse, votre père est pasteur.
Et que je m'appelle Alomaud.
Vous appelez Alomaud,
voilà.
Exactement. Et puis Allo, pas Allo, c'est H-A-L-O.
Tout à fait. C'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à cette connotation religieuse quand j'ai voulu l'appeler Celebrate. C'est vraiment parti du fait que, d'abord, avant de faire cet album, j'avais envie de faire des morceaux qui me permettraient de danser sur scène. Alors, j'ai peut-être une façon bien à moi de danser. Je dis ça parce que j'ai lu tout à l'heure dans une chronique de l'album que le côté dansant de l'album sautait pas aux oreilles. Donc, je veux bien l'admettre. Moi, ça m'a fait danser en le composant, en fait.
Mais comme Björk pouvait danser ses propres titres, alors qu'a priori,
oui,
c'est pas des titres dansants, véritablement.
Tout à fait. En tout cas, c'était ça. J'ai beaucoup dansé en le composant. Je suis souvent partie de patterns rythmiques aussi pour écrire ces morceaux. Et il se trouve que c'est aussi une période de vie où j'ai beaucoup dansé, en fait, dans la vie. Je me suis prise un peu de passion pour ça. Alors, rien de professionnel ou quoi que ce soit. Mais,
et vous avez pris des cours?
Non, j'ai pas pris de cours, mais j'ai beaucoup dansé seule. Alors, il y a eu, comme on en parlait tout à l'heure, beaucoup de moments de confinement, etc. C'est des moments où j'ai beaucoup dansé seule. Et avec des amies femmes, on a énormément dansé pendant un an et demi, deux ans, je dirais. Et c'est des moments qui m'ont vachement nourrie. J'ai vraiment des souvenirs très forts de ces moments-là. Et c'est des amies très proches que j'ai depuis très longtemps. Et ça nous a fait énormément de bien, je crois. Et voilà, c'est un petit hommage aussi à ces moments d'amitié.
Quand vous étiez plus jeune, je vais revenir à ce passé, donc le père pasteur, le dimanche, vous accompagniez les gens qui chantaient, donc des chants religieux à la guitare. Il y avait un répertoire des chansons que vous préfériez à cette époque-là?
Ah oui, bien sûr. Bah, en plus, j'étais un peu entre deux courants, si je puis dire, parce que mon père était pasteur d'une branche qui s'appelle l'Église réformée, qui est assez réputée pour son côté très austère. Donc déjà, jouer de la guitare dans une église réformée, c'était très rock'n'roll. Et mon père faisait partie d'un courant dit un peu du renouveau, qui essayait d'amener un peu de vie, voilà, et de folklore, de rock'n'roll là-dedans. et voilà, donc j'étais un peu prise entre... Enfin, lui était obligé de programmer, si je puis dire, des chants un peu traditionnels. Et on essayait de caser des chants un peu plus foufou qu'on aimait bien.
Foufou, j'adore ça. Aujourd'hui, donc, deuxième album, après Je suis une île, c'était en 2018. Un album qui s'achève sur cette question. Ce titre « Entends-tu ma voix ?» m'a interpellé parce que je me suis dit, en lisant un autre entretien, vous disiez que vous vouliez être totalement épanoui au niveau du chant. C'est quoi cette question « Entends-tu ma voix ?» et la volonté d'être totalement épanoui? Vous ne l'étiez pas auparavant, alors que vous avez chanté, mais dans des groupes, vous avez chanté aussi pour Baxter Dury, on vous a appelé de partout. Donc au niveau de la voix, vous ne devriez pas avoir de doute, Allo Maud.
Ah mais on est tous pétris de doutes, non, je crois, en tant qu'artiste, c'est aussi ce qui nous fait avancer, donc c'est bien. Non, j'avais des petites frustrations, je dirais, par rapport à mon premier album, que j'adore, mais qui faisait par ses mélodies, j'imagine, que je ne pouvais pas m'autoriser des envolées un peu lyriques, on va dire, ça ne s'y prêtait pas, les chansons n'ont pas été écrites... pour ça, quoi. En tout cas, j'ai pas senti que je pouvais le faire sur ces chansons-là. Et c'est de cette petite frustration qu'est née cette envie de me dire, alors là, j'ai vraiment envie de me lâcher, de tout donner. Et voilà, que tout soit possible. Et c'est aussi pour ça que dans la disque, il y a plusieurs moments où je me suis autorisée à pas mettre de paroles. Il y a des papapap et des tout goudou.
Vous doutez de votre voix, de votre côté, Bernard-Yves?
Oui. Ça m'arrive souvent. J'ai douté de revenir avec un EP, avec de la musique à nouveau. Non, je doute constamment chaque jour. Je comprends très bien le combat de Mauve.
Qu'elle a réussi. Sur cet album, il y a une reprise formidable, Iceberg, de Fred Fritsch et René Lucier.
Nous sommes au carrefour, c'est gros comme une épingle, l'iceberg sur quoi nous sommes perchés pour contempler la fin du monde. Moi, je crois qu'on en a encore pour longtemps. Moi, ce que je veux, c'est que la beauté ne soit plus un péché.
Une reprise formidable avec Flavien Berger. Fred Fritsch, qui est donc l'auteur de ce morceau, ce n'est pas la première fois que vous lui rendez hommage.
Au lendemain du jour où j'ai goûté à ta force rentrée, j'en aurais pris plus encore que tu n'avais. Je t'attends.
Les dons, déjà en 2018, vous lâchiez tout au niveau de la voix. Qu'est-ce que vous m'en racontez à l'aumône sur ce titre Fred, donc un hommage à Fred Fritsch. Vous voyez qui c'est ?
Non, pas du tout.
Vous voulez expliquer ?
Oui, brièvement, c'est un guitariste anglais jazz, free jazz expérimental.
Des années D'accord. 70.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a plu chez lui pour que vous lui rendiez doublement hommage ? Donc déjà le premier album en 2018 avec un titre original et cette fois-ci une reprise avec Flavien Berger.
Alors c'est un hasard. La première fois, je suis tombée en amour de son travail et c'est un peu pour les mêmes raisons que d'Irouf, sa liberté, sa folie. Il fait du bruit et on ressent des choses, donc je trouve ça assez fascinant. Et j'ai appelé ce morceau Fred, qui ne parle évidemment pas de lui, parce que je lui ai pompé un accord en fait que j'ai entendu dans un documentaire sur lui, et un accord incroyable, très compliqué, et c'est le premier accord du morceau. C'est pour ça que j'ai appelé le morceau Fred, j'ai trouvé que c'était la moindre des choses. Alors ce n'est pas l'auteur d'Iceberg, c'est il accompagne
René Lucier, ouais.
L'autrice s'appelle Geneviève Le Tarte, et c'est un hasard en fait, j'avais pas prévu de à nouveau citer Fred Fritsch sur mon nouvel album, mais je suis tombée sur ce morceau Iceberg et que j'ai trouvé incroyable.
Et l'hommage se poursuit encore parce que ce compositeur, musicien expérimental, donc britannique des années 70, s'était tourné vers d'autres musiques, hein, instrumentales, les musiques d'Inde, de Bali, ainsi que la musique d'Europe de l'Est. Et sur votre album, qu'est-ce que l'on trouve ? On trouve ce titre, Pesno Poika. C'est quoi Pesno Poika, Alomode ?
C'est une chanteuse dans les mariages bulgares traditionnels qui chante seule dans les moments les plus festifs des mariages, alors que le reste des chants sont plutôt des chants, des polyphonies, des chants en groupe.
Donc c'est celle qui est mise en valeur ?
C'est celle qui est mise en valeur, mais par contre qui chante dans les moments un peu moins importants, entre guillemets. C'est plus pour... faire de l'animation, je ne le dis pas très bien. Mais...
de la musique d'ameublement, c'est ça ce que vous voulez
non,
dire
Non, mais en tout cas, c'est pour les moments les plus festifs des cérémonies. Ouais.
Et ben, ça va être la même chose tout de suite, parce que je vous laisse regagner le micro, la guitare, tout de suite, Allo Mode, deuxième titre en live, et cette fois-ci, vous avez choisi
Catch the Wave. Leading
It's leading me to where I'm soothed. It's leading me to where I'm safe.
Catch the Way, c'était Allo Maude à la guitare en live. Merci Allo Maude. Je rappelle que les deux sessions seront disponibles sur le site de l'émission. Tout de suite, Marion Guilbeault, les dossiers SM comme scène musicale dans Côté Club.
Côté Club, les dossiers SM.
Sur France Inter. SM comme scène musicale, et celle-ci est agitée depuis des semaines par la brouille entre certaines plateformes de streaming et les artistes. Alors le dernier à monter au créneau, c'est le Britannique James Blake qui a poussé un coup de gueule la semaine dernière sur son compte Instagram. Sur son premier message, James Blake s'en prend à TikTok et déplore les conséquences de ce mode de consommation de la musique sur, je le cite, l'écriture et l'arrangement des titres, sur le déficit d'attention des auditeurs et des musiciens et sur les statistiques immédiatement disponibles pour les labels et les artistes. Il regrette le fait que les artistes doivent exceller sur les réseaux sociaux, mais pas vraiment dans la musique, le fait que les fans ne connaissent qu'un moment d'une chanson et que pendant le reste du concert, ils restent là, justement, sans réagir parce qu'ils ne connaissent pas le titre dans son ensemble.
D'autres sources d'énervement ?
Oh oui, James Blake crise aussi sur le flou juridique qui entoure les droits de propriété sur ses réseaux sociaux, avec en exemple sa reprise de Godspeed, le titre de Frank Ocean.
Wishing you Godspeed, glory. There will be mountains you
Une reprise utilisée sur des millions de vidéos sur TikTok, mais qui ne leur a pas rapporté un centime, parce que le titre était identifié comme « création originale » dans chaque vidéo. Les noms de Frank Ocean et de James Blake ne sont même pas crédités. Un James Blake donc totalement dégoûté par ce système, qui a annoncé son intention de rejoindre la plateforme éthique Vault, c'est-à-dire une plateforme qui rémunère les artistes plus justement. James Blake qui précise « Je vais commencer l'expérience en publiant de la musique inédite pour un abonnement à $5 par mois. C'est de la musique directement de vous à moi, de moi à vous, pardon, sans que personne ne puisse contrôler ce que je vous propose ni retarder mes sorties. Et j'ai aussi une section chat pour que tout le monde puisse discuter de la musique. coup de gueule donc de James Blake qui ne fait que souligner les effets pervers des plateformes de streaming. Dernier scandale en date révélé par un quotidien suédois, l'affaire Johan Rohr. C'est ce qu'on entend actuellement là, le piano super beau là derrière moi. L'artiste aux 15 milliards d'écoutes sur Spotify. Il fait partie de ces quelques dizaines de compositeurs de musique d'ambiance qui se cachent derrière des centaines de pseudos d'artistes. Dans le cas de Johan Rohr, cela fait en tout 2700 titres instrumentaux sans odeur ni saveur qu'on retrouve dans les playlists bien-être. De gros tricheurs donc qui cumulent sous des faux profils des vrais profits.
Comment ils peuvent tricher autant ?
Eh bien, cette enquête révèle un arrangement entre Spotify et les labels et les artistes qui acceptent de baisser leur rémunération, elle est déjà pas très forte, en échange de figurer sur les fameuses playlists. On parle environ d'un quart de la somme versée pour chaque titre écouté. Un système gagnant quand on produit à tour de bras, comme le fameux Johan Rohr, qui a ainsi déclaré 2,9 millions d'euros en 2022. Alors, on est très loin du discours officiel de Spotify, qui affirme que son modèle de rémunération des artistes favorise la créativité. Pour il favoriserait plutôt des playlists 100% instrumentales, des fonds sonores sans aucune créativité. On se rappelle que fin 2023, Spotify avait annoncé qu'elle ne rémunérera plus les titres totalisant moins de 1000 streams, ce qui pénalise bien sûr les artistes les moins connus.
Alors quelles sont les solutions justement pour les artistes ?
Eh bien dans ces temps obscurs, Laurent, une lumière brille au fond du tunnel. C'est celle d'un nouveau modèle de rémunération, le fameux artist-centric, qui, comme son nom l'indique, met l'artiste au centre et permet d'éviter les fraudes. Un service appliqué depuis cet automne chez Deezer est plébiscité de plus en plus par des labels, par des artistes, ainsi que par la SACEM, comme le souligne Céline Tirlet, c'est la directrice de la communication et de l'engagement des relations publiques à la SACEM, je la cite. Avec Deezer, on a lancé une étude sur l'évolution de la rémunération des auteurs et compositeurs en comparant l'ancien et le nouveau modèle. On verra ce qui fonctionne le mieux. Tout le monde n'est pas Christophe ou Jean-Michel Jarre. Certains vont gagner plus que d'autres, mais on a quand même l'intuition que ce nouveau modèle sera gagnant-gagnant. Alors, je referme ces dossiers SM et je me tourne vers vous, Alomo des Bernari. Est-ce que vous avez suivi les coups de gueule de James Blake ?
Non, j'avais pas entendu celui de James Blake, que je trouve... je suis évidemment d'accord avec ce qu'il dit. Je suis assez atterrée par tout ce qui se passe, évidemment. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais...
Oui, vous avez un avis, j'imagine, tous les deux, sur la rémunération des artistes par les plateformes de streaming.
Peut-être 5 euros, ça me semble beaucoup. Peut-être
pour
1
pour
euro,
du James Blake.
Donc ça fait l'équivalent d'un album par année. Ça me semble peut-être OK, c'est peut-être une façon de faire. Mais s'abonner à des artistes comme ça et avoir une mensualité, c'est pas inintéressant, mais 5 euros, je pense, c'est un peu déconnecté.
Oui, mais 5 euros, ça veut dire qu'est-ce que gagne l'artiste au bout du compte ? Alors là, on espère que les 5 euros vont
directement à l'artiste, ouais.
Entièrement, peut-être pas quand même.
Je pense pas. Mais...
Qu'est-ce que vous auriez à dire à l'Omo en disant il y a beaucoup de choses à dire ? Par exemple, ce qui vous passe par l'esprit, oui.
En fait, à vrai dire, je suis un peu désespérée. Moi, ça va pas être très positif comme discours. J'ai un peu du mal pour l'instant à entrevoir une solution à laquelle je crois. Il faudrait vraiment que tout le monde se mobilise. En même temps, y compris les plus gros artistes qui ont à la fois plus de poids, mais plus à perdre. Enfin, voilà, à vrai dire, je suis un tout petit peu désespérée. Donc, j'ai pas envie de répandre ce message négatif.
Non, c'est pas. Enfin, je comprends ce que vous dites.
Oui.
C'est pas un message négatif. C'est juste qu'à un moment donné, je pense qu'on
arrive
peut-être aussi au bout d'un système.
Bien sûr, il faut
chercher. Et qu'il va falloir le réformer.
C'est ça, effectivement. Mais je crois un tout petit peu plus peut-être à la législation, des choses à faire à ce niveau-là, malheureusement.
Qu'à la bonne volonté des artistes.
Ouais.
On a ouvert avec le duo Laurent Bardenne-Jeanne Adède. On poursuit avec un autre duo, Marion Rampal et Bertrand Belin, qui nous préparent de beaux dimanches. Nous sommes mercredi sur France Inter.
Où partait l'aurore dans ses bas gris, dans ses eaux bleues. Mon s'accrocher à l'arbre, ma vie m'a prise. Je suis au fer, presque à ton bras. Passer lentement sous le ciel qui change ses habits sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche. 12 heures puis le reste on nous chatoune à travers temps. Pourquoi le jour m'empêche un joli chien qui tôt matin me mord le bras, des yeux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon nom. Ça n'était qu'un doux rêve, sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche.
Suivre jusqu'au ciel
et tourner mon ombrelle. Ce n'était qu'un doux rêve.
Des beaux dimanches, un mercredi, il n'y a plus de saison sur France Inter. Allo Maud et Bernari sont les invités côté club ce soir. Bernari, un Québécois à Paris, depuis combien de temps?
Depuis un peu plus de 5 ans maintenant que j'ai décidé de m'installer à Nation.
Qu'est-ce qui a motivé ce départ du Québec?
Bon, en fait, j'ai commencé à faire la tournée un peu avec, en première partie, des Feux Chatterton. On a fait un peu le tour de la France.
Eux, ils ne sont pas installés au Québec.
Non, voilà, mais c'est un peu l'idée d'avoir vu le pays. Je me souviens d'une fois, on était à Marseille. On a pris le tourbus. J'ai dormi dans ce petit cercueil de tourbus. J'appelle ça le cercueil, mais c'est un peu ça. Et j'ai tiré le rideau. Il était peut-être 7 heures le matin et on était au Mont-Blanc. Donc, j'ai passé des calanques au Mont-Blanc avec toute la neige et la beauté absolue. Et puis, j'ai fait bon, ça y est, c'est bon. Je vis en France.
Aujourd'hui, un EP après deux albums dégainés coup sur coup. Bernari en 2014, Il Jésus en 2016. Vous étiez rapide à l'époque.
Ouais, à l'époque, ouais. J'ai un peu ralenti avec le temps.
C'est bien aussi. Quatre titres enregistrés donc avec les musiciens de Feux Chatterton. Extrait, Motel Gédéon.
Jamais plus de cette vie.
Donc, une collaboration avec les Feux Chatterton, comme on veut, plus précisément avec Clément Doumic. Vous parlez d'une intelligence dans la construction des chansons, c'est-à-dire pour vous, Bernari?
Ouais, je pense, en fait, j'ai beaucoup appris de travailler, du temps que j'ai travaillé avec Clément sur les chansons. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé avec des chansons, j'avais des trucs, des textes, machin, et puis... Clément, il a juste regardé tout ça avec moi et puis enfin bon, tu sais, ça, la mélodie c'est ça. Peut-être que l'accord en dessous, on pourrait dévier vers, je sais pas, un accord un peu plus complexe, machin. Il a tout regardé ces trucs-là. C'est un travail que moi, en tant qu'auteur-compositeur, je faisais pas vraiment, pas trop. Avant, c'est-à-dire que j'étais satisfait de moins. Et puis bon, maintenant, à chaque fois que j'écris une nouvelle chanson, je suis comme, ouais, est-ce que je pourrais peut-être changer cet accord-là, faire autre chose?
Complexifier les choses.
Ouais, voilà.
Les sophistiquer.
C'est intéressant comme travail.
Je vais revenir encore en arrière. En 2018, vous étiez déjà sur un projet de chanson et vous parliez de vos collaborateurs, à l'époque Sean Clotton et Aurore Join, et vous disiez, on a travaillé quelque chose d'assez différent de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Les raves, ont énormément influencé ma musique. Ça a ouvert quelque chose en moi d'irréversible. Ouais. Vous avez été un teufeur fou, Bernard Rich.
J'habitais dans une teuf, ouais, presque. En fait, j'avais un appartement dans un sous-sol sans fenêtre, mais qui était... j'avais un studio de connecté, un studio de musique et un loft. Et puis de l'autre côté, littéralement, il y avait... Bah, c'était isolé quand même, mais il y avait deux murs isolés. Et puis de l'autre côté, il y avait 300 personnes qui faisaient la teuf. Donc...
Ah oui, en effet, vous avez dû modifier votre vision de la musique. Voilà. Ouais.
Donc les vendredis et samedis, dormir avant 9h le matin, c'était... C'est impossible.
C'était bien?
Mais oui, c'était vraiment, vraiment super. Après, ce que j'ai fait à ce moment-là en musique, je l'ai mis de côté, je n'ai jamais sorti. Donc,
Pour quelle raison?
J'étais pas satisfait, ça m'arrive.
Vous avez l'air rarement satisfait, manifestement.
Ah, c'est vrai?
Ben oui, je sais
comme
pas.
Ça? Ah oui.
Ben ouais, vous dites, j'ai fait regarder mes chansons par Doumic.
Non, mais c'est-à-dire que ça, c'était vraiment une collaboration, je l'aurais fait sans. Mais c'était dans l'idée, on s'est dit, on avait envie de faire un truc ensemble, et puis maintenant, ça a donné comme ça, et puis j'ai appris beaucoup, effectivement. À chaque fois que je travaille avec des gens, j'apprends de toute façon, je suis une éponge.
On va rentrer dans le EP tout de suite avec Les Palmiers Bleus, que vous présentez donc comme une réponse au Tour de Lille, la chanson de Félix Leclerc, qu'on a entendue tout à l'heure. Palmier bleu, extrait de Les Odyssées, le nouvel EP de Bernard Rich. Allô Maud, je vous ai vu vivre la musique.
Oui, c'est fait pour ça la musique.
Presque danser, comme vous savez si bien le faire.
Oui, c'est vraiment super. Je découvre et j'adore.
Merci.
Bernard Rich, je sais que vous avez fait musicologie. C'est une chose de faire musicologie, mais on n'apprend pas forcément à jouer d'un instrument quand on fait musicologie. Vous avez fait le conservatoire pour jouer de la guitare, du piano, du violon, je ne sais.
Non, je suis vraiment dans l'équipe des autodidactes. J'ai commencé vers les 13 ans, je pense, à jouer de la guitare.
Dans des groupes?
J'ai eu quelques... Ouais, j'ai fondé deux groupes avant de partir en solo aussi.
Comme à Lomode aussi. Lomode avait son propre groupe.
Pareil. Ouais. Bah, ouais. Qu'est-ce qui arrive en fait? On n'est pas...
vous êtes connectés.
C'est vrai, il y a plein de points communs.
Il y a plein de points communs.
On va aller boire une bière. Et j'ai un groupe au départ qui s'appelait L'Étranger. On était 12. C'était très compliqué. C'est une micro-société en soi à gérer.
Ah oui, 12,
mais j'étais à l'époque, c'était à Montréal. C'était les débuts des années 2000. J'étais très influencé par tout ce que Constellation faisait, le label montréalais. Godspeed You Black Emperor, Silver Manzine. Et voilà, j'essayais un peu de faire ce truc-là, mais en français. Et j'avais enregistré à l'Hôtel Toutango, le studio de Godspeed à l'époque. Et puis, il nous avait dit, l'ingénieur m'a dit, c'est la première fois que je fais un truc en français. J'étais tout, ouais.
C'est l'indépendance en français.
Ça, exact. Ça a toujours été en français. J'ai toujours été fier de faire toutes mes chansons en français. À l'époque, à Montréal, il n'y avait pas grand-chose qui faisait dans l'indie, dans l'espèce de. Dans ce genre-là, en français, il y avait très peu de choses.
Alors que vous, à l'Homode, vous avez mis du temps à écrire en français.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai
les premiers projets, tout en anglais.
Oh ouais, tout à fait. Alors que je parlais pas très bien anglais, mais en tout cas, moi, à l'inverse, j'avais pas du tout envie de chanter en français, effectivement. C'était pas tant écrire que chanter.
Pour quelle raison, vous savez?
Parce que je trouvais ça trop contraignant. On pouvait pas étirer les mots. Je trouvais pas ça confortable comme langue à chanter.
À quel moment vous avez découvert votre voix, Bernard Rich?
À quel moment j'ai découvert ma voix?
Ouais.
Oh mon Dieu, Seigneur.
La
question qui tue.
Donc.
Ouais, c'est ok, c'est wow.
À Radio Canada, on pose pas des questions comme ça.
Voilà.
Je suis sûr que Monique Giroud, elle pose des questions comme ça.
À quel moment j'ai trouvé ma voix?
Non, mais voix VOX.
Ah, VOX.
Votre voix.
J'ai
non, je suis pas
j'ai
là.
J'ai une voix qui change beaucoup dans le.
Ben oui, c'est
avec
pour ça
le
que
temps dans
ça.
Les années. Ben, parce qu'en fait, je me suis toujours mis au service de la musique. Mon premier album, il était beaucoup plus voix de, je sais pas comment on peut l'appeler, voix de corps. Et sur le deuxième,
voix de poitrine.
Voix de poitrine. Voilà, c'est ce que je cherchais. Merci. Et le deuxième album était très voix de tête, mais
exactement,
ça fonctionnait bien.
On parlait
bien.
De Paul Naref, on parlait de Christophe
exactement,
à ce moment-là.
Exactement. Ouais. Ouais, parce que ça fonctionnait bien avec la musique, mais c'était la seule raison en fait. Donc et puis là, je pense que sur ce EP, je suis un peu entre les deux. J'ai
exactement.
Des chansons où je suis un peu voix de tête, d'autres un peu plus.
Il y avait des musiciens dans votre famille?
Et ils jouaient tous un peu les portes du pénitencier, mais ça s'arrête un peu là.
Donc la variété française ou belge, c'était Johnny Hallyday chez vous?
Johnny Hallyday, c'est un peu, ouais.
Ah, les portes du pénitencier, c'est lui.
Oui,
hein.
Mais c'était la version de The Animals.
Ah,
ouais,
bien
ouais,
sûr,
la version
bien
originale.
Sûr.
Ouais, ouais. Mais non, après, il y avait... À l'époque, comme Christophe, par exemple, on connaît pas beaucoup, en fait. Moi, on connaissait la chanson Aline et tout ça.
Oui, mais c'est tout, quoi.
Mais c'est tout, quoi. C'est pas, ouais.
Vous êtes content de vivre en France? Ou vous allez rentrer au Québec? La troisième.
Non, je suis très, très heureux d'être en France, honnêtement. Je trouve ça vraiment un bel endroit et tout ça. C'est très complexe. C'est beaucoup de défis. Ne serait-ce que au niveau de l'administration, j'attends mon OQTF demain matin, peut-être.
Votre quoi?
L'obligation de quitter le territoire français. Non, non, mais on ne sait jamais.
C'est une blague.
Il y a deux flics qui vous attendent à la sortie du studio. Vous allez être accompagné à la frontière.
Je suis prêt. De toute façon, chaque matin, chaque soir, je me couche. Je me dis, ça va être peut-être demain. Non, non, mais ouais, c'est extrêmement compliqué. Et j'ose pas croire pour quelqu'un qui parle pas trop bien la langue. Voilà.
Mission impossible. Vous avez déjà joué au Québec, à l'Homode?
Oui, parce que mon premier label était québécois. Michel Records, il n'existe plus, mais c'était le label de Corridor, je ne sais pas si vous connaissez,
très bien,
un
Corridor.
Excellent groupe de là-bas.
C'est formidable, une émission réussie, une programmation, il y a un inconscient dans cette émission, l'inconscient c'est moi. Vendredi dernier, on diffusait le concert triple affiche enregistré la veille au Bataclan, un concert qu'on peut réécouter encore pendant un mois avec Éloi, avec Voyou et Bonnie Banane qui sera notre invité live le 16 avril prochain avec son nouvel et deuxième album, et en live Bonnie Banane, franchement, ça vaut le coup.
Franchement, franchement, franchement. mais franchement, merde.
Oui, mesdames et messieurs, côté club, fin de partie, c'est le moment des adieux. Allô Maude, merci beaucoup, merci à vous.
Merci à vous.
Le nouvel album, c'est Celebrate, avec un rendez-vous. Vous serez au Point Éphémère à Paris le 30 mai prochain. Et je rappelle que les deux lives enregistrés seront disponibles sur le site de l'émission. Bernard Ri, merci à vous.
Immense, merci à vous.
Bienvenue en France. Le EP, c'est Les Odyssées. Vous serez en concert le 6 avril au Supersonic Records à Paris avec les musiciens de Feu Chatterton. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
Monsieur Vincent.
Non, Cléa Vincent sera notre invitée demain avec à ses côtés Pascal Borel. Et pour vous Marion, ce sera...
La deuxième partie des nouveautés nouvelles avec 300 à découvrir.
Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation. À la technique ce soir, Laurent Baudouin et Raphaël Rousseau. Programmation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic. Et aux playlists, Valentine Chedebois. Côté club, on ferme. Bonne fin de soirée, alors à demain.
Côté, c'était vraiment des chouettes moments, quoi.
Oui, il y avait même de la musique.
Bye.
Bye.